Chapitre 15. Le vice, le brevet de Zamor. La vieille comtesse tremblait de tous ses membres en se rendant chez monsieur de Maupilou. Cependant, une réflexion propre à la tranquilliser lui était venue en chemin. Selon toute probabilité, l'heure avancée ne permettrait pas à monsieur de Maupilou de la recevoir et elle se contenterait d'annoncer sa prochaine visite aux Suisses. En effet, il pouvait être 7 heures du soir, et quoiqu'il fît jour encore, l'habitude de dîner à 4 heures, déjà répandue de la noblesse, interrompait en général toute affaire depuis le dîner jusqu'au lendemain. Madame de Béarn, qui désirait rencontrer ardemment le vice-chancelier, fut cependant consolée à cette idée qu'elle ne le trouverait pas. C'était là une de ces fréquentes contradictions de l'esprit humain que l'on comprendra toujours sans les expliquer jamais. La comtesse se présenta donc, comptant que le Suisse allait l'évincer. Elle avait préparé un écu de 3 livres pour adoucir le Cerbère et l'engager à présenter son nom sur la liste des audiences demandées. En arrivant en face de l'hôtel, elle trouva le Suisse causant avec un huissier, lequel semblait lui donner un ordre. Elle attendit discrètement, de peur que sa présence ne dérangeât les 2 interlocuteurs. Mais en l'apercevant dans son carrosse de louage, l'huissier se retira. Le Suisse alors s'approcha du carrosse et demanda le nom de la solliciteuse. « Oh, je sais, dit-elle, je n'aurai probablement pas l'honneur de voir son Excellence. »« N'importe, madame, répondit le Suisse, faites-moi toujours l'honneur de me dire comment vous vous nommez. »« Comtesse de Béarn, répondit-elle. » « Monseigneur est à l'hôtel, répliqua le Suisse. « Plaît-il ? » fit madame de Béarn, au comble de l'étonnement. « Je dis que Monseigneur est à l'hôtel, » répéta celui-ci. « Mais sans doute Monseigneur ne reçoit pas. « Il recevra, madame la comtesse, » dit le Suisse. Madame de Béarn descendit, ne sachant pas si elle dormait ou veillait. Le Suisse tira un cordon qui fit 2 fois résonner une cloche. L'huissier parut sur le perron et le Suisse fit signe à la comtesse qu'elle pouvait entrer. « Vous voulez parler à Monseigneur, madame ?» demanda l'huissier. « C'est-à-dire, monsieur, que je désirais cette faveur sans oser l'espérer. Veuillez me suivre, madame la comtesse. Oh, on disait tant de mal de ce magistrat, pensa la comtesse en suivant l'huissier. Il a cependant une grande qualité, c'est d'être abordable à toute heure. Un chancelier, c'est étrange. Et tout en marchant, elle frémissait à l'idée de trouver un homme d'autant plus revêche, d'autant plus disgracieux, qu'il se donnait le privilège par l'assiduité de ses devoirs. Monsieur de Maupilou, enseveli sous une vaste perruque et vêtu de l'habit de velours noir, travaillait dans un cabinet, portes ouvertes. La comtesse, en entrant, jeta un regard rapide autour d'elle, mais elle vit avec surprise qu'elle était seule et que nulle autre figure que la sienne et celle du maigre, jaune et affairé chancelier ne se réfléchissait dans les glaces. L'huissier annonça la comtesse de Béarn. Monsieur de Maupilou se leva tout d'une pièce et se trouva du même mouvement adossé à la cheminée. Madame de Béarn fit les 3 révérences de rigueur. Le petit compliment qui suivit les révérences fut quelque peu embarrassé. Elle ne s'attendait pas à l'honneur, elle ne croyait pas qu'un ministre si occupé eût le courage de prendre sur les heures de son repos. Monsieur de Maupilou répliqua que le temps n'était pas moins précieux pour les sujets de sa majesté que pour ses ministres, que cependant il y avait encore des distinctions à faire entre les gens pressés, qu'en conséquence il donnait toujours son meilleur reste à ceux qui méritaient ces distinctions. Nouvelle révérence de madame de Béarn, puis silence embarrassé, car là devaient cesser les compliments et commencer les requêtes. Monsieur de Maupilou attendait en se caressant le menton. Monseigneur, dit la plaideuse, j'ai voulu me présenter devant votre Excellence pour lui exposer très humblement une grave affaire dont dépend toute ma fortune. Monsieur de Maupilou fit un léger signe de tête qui voulait dire parler. En effet, monseigneur, reprit-elle, vous saurez que toute ma fortune, ou plutôt celle de mon fils, est intéressée dans le procès que je soutiens en ce moment contre la famille Salus. Le vice-chancelier continua de se caresser le menton. « Mais votre équité m'est si bien connue, monseigneur, que tout en connaissant l'intérêt, je dirais même l'amitié, que votre Excellence porte à ma partie adverse, je n'ai pas hésité un seul instant à venir supplier son Excellence de m'entendre. » Monsieur de Maupeou ne put s'empêcher de sourire en entendant louer son équité. Cela ressemblait trop aux vertus apostoliques de Dubois que l'on complimentait aussi sur ses vertus 50 ans auparavant. « Madame la comtesse, dit-il, vous avez raison de dire que je suis ami des Saluces, mais vous avez aussi raison de croire qu'en prenant les sceaux, j'ai déposé toute amitié. Je vous répondrai donc, en dehors de toute préoccupation particulière, comme il convient au chef souverain de la justice. »« Oh, monseigneur, soyez béni !» s'écria la vieille comtesse. « J'examine donc votre affaire en simple jurisconsulte, » continua le chancelier. « Et je remercie votre excellence, si habile en ces matières. Votre affaire vient bientôt, je crois. Elle est appelée la semaine prochaine, monseigneur. Maintenant, que désirez-vous? Que votre excellence prenne connaissance des pièces. C'est fait. » « Eh bien, » demanda en tremblant la vieille comtesse, « que pensez-vous, monseigneur, de votre affaire ?»« Oui. Je dis qu'il n'y a pas un seul doute à avoir. » Comment, sur le gain? Non, sur la perte. Monseigneur dit que je perdrai ma cause? Indubitablement. Je vous donnerai donc un conseil. Lequel? Demanda la comtesse avec un dernier espoir. C'est si vous avez quelque paiement à faire, le procès jugé, l'arrêt rendu. Eh bien, c'est de tenir vos fonds prêts. Mais, monseigneur, nous sommes ruinés alors. « Dame, vous comprenez, madame la comtesse, que la justice ne peut entrer dans ces sortes de considérations. Cependant, monseigneur, à côté de la justice, il y a la pitié. C'est justement pour cette raison, madame, que la justice est aveugle. Mais cependant, votre excellence ne me refusera point un conseil. Dame, demandez, de quel genre le voulez-vous ? « N'y a-t-il aucun moyen d'entrer en arrangement, d'obtenir un arrêt plus doux ?»« Vous ne connaissez aucun de vos juges ?» demanda le vice-chancelier. « Aucun, monseigneur. »« Ah, c'est fâcheux. Messieurs de Saluces sont liés avec les trois quarts du Parlement, eux. » La comtesse frémit. « Notez bien, » continua le vice-chancelier, « que cela ne fait rien quant au fond des choses, car un juge ne se laisse pas entraîner par des influences particulières. » C'était aussi vrai que l'équité du chancelier et les fameuses vertus apostoliques de Dubois. La comtesse faillit s'évanouir. Mais enfin, continua le chancelier, la part faite de l'intégrité, le juge pense plus à son ami qu'à l'indifférent. C'est trop juste lorsque c'est juste, et comme il sera juste que vous perdiez votre procès, madame, on pourra bien vous en rendre les conséquences aussi désagréables que possible. « Mais c'est effrayant ce que votre excellence me fait l'honneur de me dire. »« Oh, quant à moi, madame, » continua monsieur de Maupeou, « vous pensez bien que je m'abstiendrai. Je n'ai pas de recommandation à faire au juge, et comme je ne juge pas moi-même, je puis donc parler. »« Hélas, monseigneur, je me doutais bien d'une chose. » Le vice-chancelier fixa sur la plaideuse ses petits yeux gris. C'est que messieurs de Saluces habitent en Paris, messieurs de Saluces sont liés avec tous les juges, c'est que monsieur de Saluces, enfin, serait tout puissant, parce qu'ils ont le droit d'abord. Qu'il est cruel, monseigneur, d'entendre sortir ces paroles de la bouche d'un homme infaillible comme est votre excellence. Je vous dis tout cela, c'est vrai, et cependant, reprit avec une fin de bonhomie monsieur de Maupeou, je voudrais vous être utile sur ma parole. La comtesse tressaillit. Il lui semblait voir quelque chose d'obscur, sinon dans les paroles, du moins dans la pensée du vice-chancelier, et que si cette obscurité se dissipait, elle découvrirait derrière quelque chose de favorable. « D'ailleurs, continua monsieur de Maupeou, le nom que vous portez, qui est un des plus beaux de France, est auprès de moi une recommandation très efficace, qui ne m'empêchera pas de perdre mon procès, monseigneur. » Dame, je ne peux rien, moi. Oh, monseigneur, dit la comtesse en hochant la tête, comme vont les choses. Vous semblez dire, madame, reprit en souriant monsieur de Maupeou, que de notre vieux temps, elles allaient mieux.
Hélas, oui, monseigneur, il me semble cela du moins, et je me rappelle avec délice ce temps où, simple avocat du roi au Parlement, vous prononciez ces belles harangues que moi, jeune femme à cette époque, j'allais applaudir avec enthousiasme. Ah, quel feu, quelle éloquence, quelle vertu! Ah, monsieur le chancelier, dans ce temps-là, il n'y avait ni bride ni faveur, dans ce temps-là, j'eusse gagné mon procès. Nous avions bien madame de Falaris qui essayait de régner dans les moments où le régent fermait les yeux, et la souris qui se fourrait partout pour essayer de grignoter quelque chose. Oh, monseigneur, madame de Falaris était si grande dame, et la souris si bonne fille, qu'on ne pouvait rien leur refuser, ou qu'elle ne savait rien refuser. « Ah, madame la comtesse !» dit le chancelier en riant d'un rire qui étonna de plus en plus la vieille plaideuse, tant il avait l'air franc et naturel. « Ne me faites pas mal parler de mon administration par amour pour ma jeunesse. Mais votre excellence ne peut cependant m'empêcher de pleurer ma fortune perdue, ma maison à jamais ruinée. Voilà ce que c'est de ne pas être de son temps, comtesse, sacrifiée aux idoles du jour, sacrifiée. Qu'en savez-vous? Moi? Oui, vous n'avez pas essayé, ce me semble. Oh, monseigneur, vous êtes si bon que vous me parlez comme un ami. Nous sommes du même âge, comtesse. Ah, que n'ai-je 20 ans, monseigneur, et que n'êtes-vous encore simple avocat? Vous plaideriez pour moi, il n'y aurait pas de salus qui tinse contre vous. Ah, malheureusement, nous n'avons plus 20 ans, madame la comtesse, dit le vice-chancelier avec un galant soupir. Il nous faut donc implorer ceux qui les ont, puisque vous avouez vous-même que c'est l'âge de l'influence. Quoi, vous ne connaissez personne à la cour? Oh, de vieux seigneurs retirés qui rougiraient de leur ancienne amie parce qu'elle est devenue pauvre. Tenez, monseigneur, je mets entrée à Versailles et j'irai si je le voulais, mais à quoi bon? Ah, que je rentre dans mes 200 000 livres et l'on me recherchera. Faites ce miracle, monseigneur. Le chancelier fit semblant de ne point entendre cette dernière phrase. « À votre place, dit-il, j'oublierai les vieux comme les vieux vous oublient, et je m'adresserai aux jeunes qui tâchent de recruter des partisans. Connaissez-vous un peu mesdames? Elles m'ont oublié. Et puis elles ne peuvent rien. Connaissez-vous le dauphin? Non. » Et d'ailleurs, continua monsieur de Maupilloux, il est trop occupé de son archiduchesse qui arrive pour penser à autre chose, mais voyons parmi les favoris. Oh, je ne sais même plus comment il s'appelle. Monsieur d'Aiguillon? Oh, un freluquet contre lequel on dit des choses indignes, qui s'est caché dans un moulin tandis que les autres se battaient. Fi donc! Ah, fit le chancelier, il ne faut jamais croire la moitié de ce qu'on dit, en cherchons encore. Cherchez, monseigneur, cherchez. Mais pourquoi pas? Oui, non, si fait. Dites, monseigneur, dites, pourquoi ne pas vous adresser à la comtesse elle-même? À madame du Barry, dit la plaideuse en ouvrant son éventail. Mais oui, elle est bonne au fond. En vérité? Et officieuse surtout. Oh, je suis de trop vieille maison pour lui plaire, monseigneur. Eh bien, je crois que vous vous trompez, comtesse. Elle cherche à se rallier les bonnes familles. « Vous croyez ?» dit la vieille comtesse, déjà chancelante dans son opposition. « La connaissez-vous ? Oh mon Dieu, non ! Hein, voilà le mal, j'espère qu'elle a du crédit, celle-là. Oui, elle a du crédit, mais jamais je ne l'ai vue. Ni sa sœur Chomp, non. Et ni sa sœur Bichy, non. Ni son frère Jean, non. Ni son nègre Zamor, comment son nègre ? Oui, son nègre est une puissance. » Cette petite horreur dont on vend les portraits sur le pont neuf et qui ressemble à un carlin habillé, celui-là même. Moi, connaître ce moricaud, monseigneur, s'écria la comtesse offensée dans sa dignité. Comment voulez-vous que je l'aie connu? Allons, je vois que vous ne voulez pas garder vos terres, comtesse. Comment cela? Puisque vous méprisez Zamor. Mais que peut-il faire Zamor dans tout cela? Il peut vous faire gagner votre procès, voilà tout. Lui, ce Mozambique, me faire gagner mon procès, et comment cela, je vous prie? En disant à sa maîtresse que cela lui ferait plaisir que vous le gagniez. Vous savez, les influences, il fait tout ce qu'il veut de sa maîtresse, et sa maîtresse fait tout ce qu'elle veut du roi. Mais c'est donc Zamor qui gouverne la France ?»« fit monsieur de Maupéou en hochant la tête, « Zamor est bien influent et j'aimerais mieux être brouillé avec la dauphine, par exemple, qu'avec lui. »« Jésus !» s'écria madame de Béarn, « si ce n'était pas une personne aussi sérieuse que votre excellence qui me dise de pareilles choses. » Eh, mon Dieu, ce n'est pas seulement moi qui vous dirai cela, c'est tout le monde. Demandez aux ducs et aux pairs s'ils oublient, en allant à Marly ou à Lucienne, les dragées pour la bouche ou les perles pour les oreilles de Zamor. Moi qui vous parle, n'est-ce pas moi qui suis le chancelier de France, ou à peu près? Eh bien, à quelle besogne croyez-vous que je m'occupais quand vous êtes arrivé? Je dressais pour lui des provisions de gouverneur. De gouverneur? Oui, monsieur de Zamor est nommé gouverneur de Lucienne. Le même titre dont on a récompensé monsieur le comte de Béarn après 20 années de service. En le faisant gouverneur du château de Blois, oui, c'est cela. Quelle dégradation, mon Dieu ! S'écria la comtesse. Mais la monarchie est donc perdue ? Elle est bien malade, au moins, comtesse, mais d'un malade qui va mourir, vous le savez, on tire ce que l'on peut. « sans doute, mais encore il faut pouvoir s'approcher du malade. Savez-vous ce qu'il vous faudrait pour être bien reçu de madame du Barry ? Quoi donc ? Il faudrait que vous fussiez admise à porter ce brevet à son aigre, la belle entrée en matière. » « Vous croyez, monseigneur ? Dit la comtesse consternée. « J'en suis sûr, mais... »« Mais, répéta madame de Béarn, vous ne connaissez personne auprès d'elle ?» Mais vous, monseigneur, moi, oui, moi, je serais bien embarrassé. Allons, décidément, dit la vieille plaideuse, brisée par toutes ces alternatives, décidément, la fortune ne peut plus rien faire pour moi. Voilà que votre excellence me reçoit comme je n'ai jamais été reçue, quand je n'espérais même pas avoir l'honneur de la voir. Eh bien, il me manque encore quelque chose. Non seulement je suis disposé à faire la cour à madame du Barry, moi, une béarne, pour arriver jusqu'à elle, je suis disposé à me faire la commissionnaire de cet affreux négrillon que je n'eusse pas honoré d'un coup de pied au derrière si je l'eusse rencontré dans la rue, et voilà que je ne puis même pas arriver jusqu'à ce petit monstre. » Monsieur de Maupéou recommençait à se caresser le menton et paraissait chercher quand tout à coup l'huissier annonça « Monsieur le vicomte Jean du Barry ». À ces mots, le chancelier frappa dans ses mains en signe de stupéfaction et la comtesse tomba sur son fauteuil sans pouls ni haleine. « Dites maintenant que vous êtes abandonnée de la fortune, madame !» s'écria le chancelier. « Ah, comtesse, au contraire, le ciel combat pour vous !» Puis, se retournant vers l'huissier et sans donner à la pauvre vieille le temps de se remettre de sa stupéfaction, « Faites entrer, » dit-il. L'huissier se retira, puis, un instant après, il revint, précédant notre connaissance Jean du Barry, qui fit son entrée, le jarret tendu et le bras en écharpe. Après les saluts d'usage, et comme la comtesse, indécise et tremblante, essayait de se lever pour prendre congé, comme déjà le chancelier la saluait d'un léger mouvement de tête, indiquant par ce signe que l'audience était finie, « Pardon, monseigneur, dit le vicomte, pardon, madame, je vous dérange, excusez-moi. Demeurez, madame, je vous prie, avec le bon plaisir de son excellence, je n'ai que 2 mots à lui dire. » La comtesse se rassit sans se faire prier. Son cœur nageait dans la joie et battait d'impatience. « Mais peut-être vous gênerai-je, monsieur ?» balbutia la comtesse. « Oh, mon Dieu, non, 2 mots seulement à dire à son excellence, 10 minutes de son précieux travail à lui enlever, le temps de porter plainte. »« Plainte, dites-vous ? » fit le chancelier à monsieur du Barry. « Assassiné, monseigneur, oui, assassiné, vous comprenez, je ne puis laisser ce sorte de choses-là, qu'on nous vilipende, qu'on nous chansonne, qu'on nous noircisse, on survit à cela, mais qu'on vous égorge, non, par Dieu, on en meurt. » « Expliquez-vous, monsieur, dit le chancelier en jouant l'effroi. Ah, ce sera bientôt fait, mais, mon Dieu, j'interromps l'audience de madame... » « Madame la comtesse de Béarn, » fit le chancelier en présentant la vieille femme à monsieur le vicomte Jean du Barry. Du Barry recula gracieusement pour sa révérence, la comtesse pour la sienne, et tous deux se saluèrent avec autant de cérémonie qu'ils l'eussent fait à la cour. « Après vous, monsieur le vicomte, » dit-elle, « oh, madame la comtesse, je n'ose commettre un crime de lèse-galanterie. » Faites, monsieur, faites. Il ne s'agit que d'argent pour moi, il s'agit d'honneur pour vous. Vous êtes naturellement le plus pressé.
Madame, dit le vicomte, je profiterai de votre gracieuse obligeance. Et il raconta son affaire au chancelier, qui l'écouta gravement.
Il nous faudrait des témoins, dit monsieur de Maupeou après un moment de silence.
Ah, s'écria du Barry, je reconnais bien là le juge intègre qui ne veut se laisser influencer que par l'irrécusable vérité. Eh bien, on vous en trouvera des témoins.
Monseigneur, dit la comtesse, il y en a déjà un tout trouvé.
Et quel est ce témoin? Demandèrent ensemble le vicomte et monsieur de Maupeou.
Moi, dit la comtesse.
Vous, madame, fit le chancelier.
Écoutez, monsieur, l'affaire ne s'est-elle pas passée au village de la Chaussée?
Oui, madame, au relais de la poste,
oui.
Eh bien, je serai votre témoin. Je suis passé sur les lieux où l'attentat avait été commis 2 heures après cet attentat.
Ah, vraiment, madame, dit le chancelier.
Ah, vous me comblez, dit le vicomte.
Ah, de telles enseignes, poursuivit la comtesse, que tout le bourg racontait encore l'événement.
Prenez garde, dit le vicomte, prenez garde, si vous consentez à me servir dans cette affaire, très probablement les Choiseul trouveront un moyen de vous en faire repentir.
Ah, fit le chancelier, cela leur serait d'autant plus facile que madame la comtesse a dans ce moment un procès dont le gain me paraît fort aventuré.
Monseigneur, monseigneur, dit la vieille dame en portant les mains à son front, je roule d'abîmes en abîmes.
« Appuyez-vous un peu sur monsieur, » fit le chancelier à mi-voix, « il vous prêtera le bras solide. »«
Rien qu'un, » fit du Barry en minaudant, « mais je connais quelqu'un qui en a deux bons et longs et qui vous les offre. »«
Ah, monsieur le vicomte, » s'écria la vieille dame, « cette offre est-elle sérieuse ?»«
Dame, service pour service, madame, j'accepte les vôtres, acceptez les miens, est-ce dit ?»«
Ah, si je les accepte, monsieur, oh, c'est trop de bonheur. »
« Eh bien, madame, je vais de ce pas rendre visite à ma sœur, daignez prendre une place dans ma voiture. »«
Sans motif, sans préparation, oh, monsieur, je n'oserais. »«
Vous avez un motif, madame, » dit le chancelier, en glissant dans la main de la comtesse le brevet de Zamore.
« Monsieur le chancelier, s'écria la comtesse, vous êtes mon Dieu tutélaire. Monsieur le vicomte, vous êtes la fleur de la noblesse française. »
À votre service, répéta encore le vicomte en montrant le chemin à la comtesse qui partit comme un oiseau.
Merci pour ma sœur, dit tout bas Jean à monsieur de Maupeou. Merci, mon cousin.
Mais ai-je bien joué mon rôle, hein?
Parfaitement, dit Maupeou. Mais racontez un peu aussi là-bas comment j'ai joué le mien.
Au reste, prenez garde, la vieille est fine.
En ce moment, la comtesse se retournait. Les deux hommes se courbèrent pour un salut cérémonieux.
Un carrosse magnifique aux livrées royales attendait près du perron. La comtesse s'y installa, toute gonflée d'orgueil, Jean fit un signe et l'on partit.
Après la sortie du roi de chez madame du Barry, après une réception courte et maussade, comme le roi l'avait annoncé aux courtisans, la comtesse était restée enfin seule avec Chon et son frère, lequel ne s'était pas montré tout d'abord, afin que l'on ne pût constater l'état de sa blessure, assez légère en réalité. Le résultat du conseil de famille avait alors été que la comtesse, au lieu de partir pour Lucienne, comme elle avait dit au roi qu'elle allait le faire, était partie pour Paris. La comtesse avait là, dans la rue de Valois, un petit hôtel qui servait de pied-à-terre à toute cette famille sans cesse courant par monts et par vaux lorsque les affaires commandaient ou que les plaisirs retenaient. La comtesse s'installa chez elle, prit un livre et attendit. Pendant ce temps, le vicomte dressait ses batteries. Cependant, la favorite n'avait pas eu le courage de traverser Paris sans mettre de temps en temps la tête à sa portière. C'était un de ces instincts des jolies femmes à se montrer parce qu'elles sentent qu'elles sont bonnes à voir. La comtesse se montra donc, de sorte que le bruit de son arrivée à Paris se répandit et que de 2 heures à 6 heures, elle reçut une vingtaine de visites. Ce fut un bienfait de la Providence pour cette pauvre comtesse qui fut morte d'ennui si elle était restée seule. Mais grâce à cette distraction, le temps passa en médisant, en trônant et en coquetant. On pouvait lire 7 heures et demie au large cadran lorsque le vicomte passa devant l'église Saint-Eustache emmenant la comtesse de Béarn chez sa sœur. La conversation dans le carrosse exprima toutes les hésitations de la comtesse à profiter d'une si bonne fortune. De la part du vicomte, c'était l'affectation d'une certaine dignité de protectorat et des admirations sans nombre sur le hasard singulier qui procurait à madame de Béarn la connaissance de madame du Barry. De son côté, madame de Béarn ne tarissait point sur la politesse et l'affabilité du vice-chancelier. Malgré ces mensonges réciproques, les chevaux n'en avançaient pas moins vite, et l'on arriva chez la comtesse à 8 heures moins quelques minutes. « Permettez, madame, dit le vicomte, laissant la vieille dame dans un salon d'attente, permettez que je prévienne madame du Barry de l'honneur qui l'attend. »« Oh, monsieur, dit la comtesse, je ne souffrirai pas qu'on la dérange. » Jean s'approcha de Zamore, qui avait guetté aux fenêtres du vestibule l'arrivée du vicomte, et lui donna un ordre tout bas. « Oh, le charmant petit négrillon !» s'écria la comtesse. « Est-ce à madame votre sœur ?»«
Oui, madame, c'est un de ses favoris, » dit le vicomte. « Oh, je lui en fais mon compliment. »
Presque au même moment, les deux battants du salon d'attente s'ouvrirent, et le valet de pied introduisit la comtesse de Béarn dans le grand salon où madame du Barry donnait ses audiences. Pendant que la plaideuse examinait en soupirant le luxe de cette délicieuse retraite, Jean du Barry était allé trouver sa sœur. «
Est-ce elle ? » demanda la comtesse, « en chair et en os. Elle ne se doute de rien au monde. Et le vice, parfait, tout conspire pour nous, cher ami. Ne restons pas plus longtemps ensemble alors qu'elle ne se doute de rien. »
« Ah, vous avez raison, car elle m'a l'air d'une fine mouche. Où est Chon ? Mais vous savez bien, à Versailles, qu'elle ne se montre pas, surtout. Je lui ai bien recommandé. Allons, faites votre entrée, princesse. » Madame du Barry poussa la porte de son boudoir et entra. Toutes les cérémonies d'étiquette déployées en pareil cas à l'époque où se passent les événements que nous racontons furent scrupuleusement accomplies par ces deux actrices, préoccupées du désir de se plaire l'une à l'autre. Ce fut madame du Barry qui, la première, prit la parole. « J'ai déjà remercié mon frère, madame, dit-elle, lorsqu'il m'a procuré l'honneur de votre visite. C'est vous que je remercie à présent d'avoir bien voulu penser à me la faire. » « Et moi, madame, répondit la plaideuse charmée, je ne sais quels termes employer pour vous exprimer toute ma reconnaissance du gracieux accueil que vous me faites. » Madame, fit à son tour la comtesse avec une révérence respectueuse, c'est mon devoir envers une dame de votre qualité que de me mettre à sa disposition, si je pouvais cependant lui être bonne à quelque chose. Et les trois révérences accomplies de part et d'autre, la comtesse du Barry indiqua un fauteuil à madame de Béarn et en prit un pour elle-même. « Madame, dit la favorite à la comtesse, parlez, je vous écoute. » « Permettez, ma sœur, dit Jean, demeurez debout, permettez que j'empêche madame d'avoir l'air de vous solliciter. Madame n'y pensait pas le moins du monde. Monsieur le chancelier l'a chargé d'une commission pour vous, voilà tout. » Madame de Béarn jeta un regard plein de reconnaissance sur Jean et tendit à la comtesse le brevet signé par le vice-chancelier, lequel brevet érigeait Lucienne en château royal et confiait à Zamore le titre de son gouverneur.
« Ah, c'est donc moi, madame, qui suis votre obligée, » dit la comtesse après avoir jeté un coup d'œil sur le brevet. « Et si j'étais assez heureuse pour trouver une occasion de vous être agréable à mon tour ?»« Ah, ce serait facile, madame, » s'écria la plaideuse avec une vivacité qui enchanta les deux associés. « Comment cela, madame, dites, je vous prie ?» « Puisque vous voulez bien me dire, madame, que mon nom ne vous est pas tout à fait inconnu.
« Comment donc, une Béarn ?
Eh bien, vous avez peut-être entendu parler d'un procès qui laisse vague les biens de ma maison. Disputé par messieurs de Saluces, je crois. »«
Hélas, oui, madame. »«
Oui, oui, je connais cette affaire, dit la comtesse. Sa Majesté en parlait l'autre soir chez moi à mon cousin, monsieur de Maupilloux. »
« Sa Majesté !» s'écria la plaideuse. « Sa Majesté a parlé de mon procès !»«
Oui, madame. »«
Et en quels termes ?»«
Ah, hélas, pauvre comtesse !» s'écria à son tour madame du Barry en secouant la tête.
« Un procès perdu, n'est-ce pas ?» fit la vieille plaideuse avec angoisse.
« Ah, s'il faut vous dire la vérité, je le crains bien, madame. »«
Sa Majesté l'a dit ?»
Sa Majesté, sans se prononcer, car elle est pleine de prudence et de délicatesse, Sa Majesté semblait regarder ses biens comme déjà acquis par la famille de Saluce. « Oh, mon Dieu, madame, si Sa Majesté était au courant de l'affaire, si elle savait que c'est par cession, à la suite d'une obligation remboursée, oui, madame, remboursée, les 200 000 francs ont été rendus. Je n'en ai pas les preuves, certainement, mais j'en ai les preuves morales, et si je pouvais, devant le Parlement, plaider moi-même, je démontrerais par déduction. »
« Par déduction ?» interrompit la comtesse, qui ne comprenait absolument rien à ce que lui disait Madame de Béarn, mais qui paraissait néanmoins donner la plus sérieuse attention à son plaidoyer.
« Oui, madame, par déduction. »«
La preuve par déduction est admise, » dit Jean.
« Ah, le croyez-vous, monsieur le vicomte ?» s'écria la vieille.
« Je le crois, » répondit le vicomte avec une suprême gravité.
« Eh bien, par déduction, je prouverai que cette obligation de 200 000 livres, qui, avec les intérêts accumulés, forme aujourd'hui un capital de plus d'1 000 000, je prouverai que cette obligation, en date de 1400, a dû être remboursée par Guy Gaston IV, comte de Béarn, à son lit de mort en 1417, puisqu'on trouve de sa main dans son testament, sur mon lit de mort, ne devant plus rien aux hommes, et prêt à paraître devant Dieu.
« Eh bien, dit la comtesse,
eh bien, vous comprenez, s'il ne devait plus rien aux hommes, c'est qu'il s'était acquitté avec les Saluces. Sans cela, il aurait dit « devant 200 000 livres » au lieu de dire « ne devant rien ».
Incontestablement, il l'eût dit, interrompit Jean.
« Mais vous n'avez pas d'autres preuves ?»«
Que la parole de Gaston IV, non, madame, mais c'est celui que l'on appelait l'irréprochable. »
Tandis que vos adversaires ont l'obligation.
Oui, je le sais bien, dit la vieille, et voilà justement ce qui embrouille mon procès.
Elle aurait dû dire ce qui l'éclaircit, mais Madame de Béarn voyait les choses de son point de vue.
Ainsi, votre conviction à vous, madame, c'est que les Saluces se sont remboursés, dit Jean.
Oui, monsieur le vicomte, dit Madame de Béarn avec élan, c'est ma conviction.
« Eh mais, reprit la comtesse en se retournant vers son frère d'un air pénétré, savez-vous, Jean, que cette déduction, comme dit Madame de Béarn, change terriblement l'aspect des choses ?»«
Terriblement, oui, madame, dit Jean. »
« Terriblement pour mes adversaires, » continua la comtesse. « Les termes du testament de Gaston IV sont positifs, ne devant plus rien aux hommes. »
« C'est non seulement clair, mais c'est logique, » dit Jean. « Il ne devait plus rien aux hommes, donc il avait payé ce qu'il leur devait. »«
Donc il avait payé, » répéta à son tour Madame du Barry.
« Ah, madame, que n'êtes-vous, mon juge ?» s'écria la vieille comtesse.
« Autrefois, » dit le vicomte Jean, « dans un cas pareil, on n'eût pas eu recours aux tribunaux, et le jugement de Dieu eût vidé l'affaire. Quant à moi, j'ai une telle confiance dans la beauté de la cause, je le jure, si un pareil moyen était encore en usage, que je m'offrirais pour être champion de madame. »«
Oh, monsieur !»«
Ah, c'est comme cela. D'ailleurs, je ne ferai que ce que fit mon aïeul du Barrymour, qui eut l'honneur de s'allier à la famille royale de Stuart lorsqu'il combattit en champ clos pour la jeune et belle Edith de Scarborough, et qu'il fit avouer à son adversaire qu'il en avait menti par la gorge. Mais malheureusement, continua le vicomte avec un soupir de dédain, nous ne vivons plus dans ces glorieux temps, et les gentilshommes, lorsqu'ils discutent leurs droits, doivent aujourd'hui soumettre la cause au jugement d'un tas de robins qui ne comprennent rien à une phrase aussi claire que celle-ci, ne devant plus rien aux hommes.
Écoutez donc, cher frère, il y a 300 ans passés que cette phrase a été écrite, hasarda Madame du Barry, et il faut faire la part de ce qu'au palais on appelle, je crois, la prescription.
N'importe, n'importe, dit Jean, je suis convaincu que si Sa Majesté entendait madame exposer son affaire, comme elle vient de le faire devant nous.
Oh, je la convaincrai, n'est-ce pas, monsieur, j'en suis sûr.
Et moi aussi.
Oui, mais comment me faire entendre?
Il faudrait pour cela que vous me fissiez l'honneur de me venir voir un jour à Lucienne, et comme Sa Majesté me fait la grâce de m'y visiter assez souvent.
« Ah oui, sans doute, ma chère, mais tout cela dépend du hasard. »«
Vicomte, dit la comtesse avec un charmant sourire, vous savez que je me fie assez au hasard, je n'ai point à m'en plaindre. »
Et cependant, le hasard peut faire que de 8 jours, de 15 jours, de 3 semaines, Madame ne rencontre pas Sa Majesté.
Ah, c'est vrai.
En attendant, son procès se juge lundi ou mardi.
Mardi, monsieur.
Et nous sommes à vendredi soir.
Oh alors, dit la du Barry, d'un air désespéré, il ne faut plus compter là-dessus.
Comment faire, dit le vicomte, paraissant rêver profondément. Diable, diable.
Une audience à Versailles, dit timidement Madame du Béarn.
Oh, vous ne l'obtiendriez pas.
Avec votre protection, madame.
Oh, ma protection n'y ferait rien. Sa Majesté a horreur des choses officielles, et dans ce moment-ci, elle n'est préoccupée que d'une seule affaire.
Celle des parlements, demanda Madame de Béarn.
Non, celle de ma présentation.
Ah, fit la vieille plaideuse.
Car, comme vous savez, madame, malgré l'opposition de monsieur de Choiseul, malgré les intrigues de monsieur de Pralin et malgré les avances de madame de Gramont, le roi a décidé que je serais présentée.
Ah, non, non, madame, je ne le savais pas, dit la plaideuse.
Oh, mon Dieu, oui, décidé, dit Jean.
Et quand aura lieu cette présentation, madame?
Très prochainement.
Ah, voilà, le roi veut que la chose ait lieu avant l'arrivée de madame la dauphine, afin de pouvoir emmener ma sœur aux fêtes de Compiègne.
Ah, je comprends. Alors madame est en mesure d'être présentée, fit timidement la comtesse.
Mon Dieu, oui, madame la baronne d'Allogny.
Connaissez-vous madame la baronne d'Allogny?
Oh non, monsieur, hélas, je ne connais plus personne. Il y a 20 ans que j'ai quitté la cour.
Eh bien, c'est madame la baronne d'Allogny qui lui sert de marraine. Le roi la comble, cette chère baronne. Son mari est chambellan. Son fils passe aux gardes avec promesse de la première lieutenance. Sa baronnie est érigée en comté. Les bons sur la cassette du roi sont permutés contre des actions de la ville. Et le soir de la présentation, elle recevra 20 000 écus comptant. Aussi, elle presse, elle presse.
« Je comprends cela, » dit la comtesse de Béarn avec un gracieux sourire.
« Ah, mais j'y pense !» s'écria Jean.
« À quoi ?» demanda madame du Barry. « Quel malheur » ajouta-t-il en bondissant sur son fauteuil. « Quel malheur que je n'ai pas rencontré 8 jours plus tôt, madame, chez notre cousin le vice-chancelier. »«
eh bien, nous n'avions aucun engagement avec la baronne d'Allogny à cette époque-là. »
Mon cher, dit madame du Barry, vous parlez comme un sphinx, je ne vous comprends pas.
Vous ne comprenez pas?
Non.
Je parie que madame comprend.
Pardon, monsieur, mais je cherche en vain.
Il y a 8 jours, vous n'aviez pas de marraine,
mais sans doute.
Eh bien, madame, je m'avance peut-être trop.
Non, monsieur, dites.
Madame vous en eût servi.
Et ce qu'il fait pour madame d'Allogny, le roi lui fait pour madame.
La plaideuse ouvrait de grands yeux.
Hélas, dit-elle.
Ah, si vous saviez, continua Jean, quelle grâce le roi a mise à lui accorder toutes ses faveurs. Il n'a pas été besoin de les lui demander, il a été au-devant. Dès qu'on lui eut dit que la baronne d'Allogny s'offrait pour être la marraine de Jeanne, « À la bonne heure, a-t-il dit, je suis là de toutes ces drôlesses qui seront plus fières que moi, à ce qu'il paraît. Comtesse, vous me présentez cette femme, n'est-ce pas? A-t-elle un bon procès, un arriéré, une banqueroute ?»
Les yeux de la comtesse se dilataient de plus en plus.
« Seulement, ajoutait le roi, une chose me fâche. »«
Ah, une chose fâchée, sa majesté ?»«
Oui, une seule. » Une seule chose me fâche, c'est que pour présenter madame du Barry, j'eusse voulu un nom historique.
Et en disant ces paroles, sa majesté regardait le portrait de Charles Ier par Van Dyck.
Oui, je comprends, dit la vieille plaideuse. Sa majesté disait cela sans doute de cette alliance des du Barrymore avec les Stuarts dont vous parliez tout à l'heure.
Et justement.
« Le fait est, dit madame de Béarn avec une intonation impossible à rendre, le fait est que les d'Allogny, je n'ai jamais entendu parler de cela.
« Bonne famille, cependant, dit la comtesse, qui a fourni ses preuves, ou à peu près. »
« Ah, mon Dieu !» s'écria tout à coup Jean en se soulevant sur son fauteuil à la force du poignet.
« Eh bien, qu'avez-vous ? » fit madame du Barry, ayant toutes les peines du monde à s'empêcher de rire en face des contorsions de son beau-frère. Monsieur s'est piqué, peut-être ? Demanda la vieille plaideuse avec sollicitude.
Non, dit Jean, en se laissant doucement retomber, non, c'est une idée qui me vient.
Quelle idée ? Dit la comtesse en riant, elle vous a presque renversé.
Elle doit être bien bonne, fit madame de Béarn.
« Excellente.
Mais dites-nous là, alors.
Mais seulement, il n'y a qu'un malheur.
Lequel ?
Elle est impossible à exécuter.
Dites toujours.
En vérité, j'ai peur de laisser des regrets à quelqu'un.
N'importe, allez, vicomte, allez.
Je pensais que si vous faisiez part à madame d'Allogny de cette observation que faisait le roi en regardant le portrait de Charles Ier,
oh, ce serait peu obligeant, vicomte.
Ah, c'est vrai.
Alors n'en parlons plus.
La plaideuse poussa un soupir.
Ce fâcheux, continua le vicomte, comme se parlant à lui-même, les choses allaient toutes seules. Madame, qui a un grand nom et qui est une femme d'esprit, s'offrait à la place de la baronne d'Allogny. Elle gagnait son procès. Monsieur de Béarn fils avait une lieutenance dans la maison. Et comme madame a fait de grands frais pendant les différents voyages que ce procès l'a contrainte de faire à Paris, on lui donnait un dédommagement.
Ah, une pareille fortune ne se rencontre pas deux fois dans la vie.
Hélas non, ne put s'empêcher de dire madame de Béarn, étourdie par ce coup imprévu.
Le fait est que dans la position de la pauvre plaideuse, tout le monde eût dit comme elle et comme elle fut restée dans le fond de son fauteuil.
« Là, vous voyez, mon frère, dit la comtesse avec un accent de profonde commisération, vous voyez que vous avez affligé madame. N'est-ce pas assez à moi que de lui prouver que je ne pouvais rien demander au roi avant ma présentation ?
Ah, si je pouvais faire reculer cependant mon procès.
Oh, de 8 jours seulement, dit du Barry.
« Oui, de 10 jours, fit madame de Béarn. Dans 8 jours, madame sera présentée. »
« Oui, mais le roi sera à Compiègne dans 8 jours, le roi sera au milieu des fêtes, la dauphine sera arrivée. »«
Hein, c'est juste, dit Jean. Mais
quoi ?
Attendez donc, encore une idée. »«
Laquelle, monsieur, laquelle ?» dit la plaideuse.
« Il me semble, oui, non, ah, oui, oui, oui. »
Madame de Béarn répétait avec anxiété les monosyllabes de Jean.
« Vous avez dit oui, monsieur le vicomte, fit-elle.
Hein, je crois que j'ai trouvé le point.
Dites,
écoutez ceci.
Nous écoutons.
Votre présentation est encore un secret, n'est-ce pas ?
Sans doute, madame seule.
Oh, soyez tranquille, s'écria la plaideuse.
Votre présentation est donc un secret. On ignore que vous avez trouvé une marraine. »
« Mais sans doute, le roi veut que la nouvelle éclate comme une bombe.
Ah, »« Nous y sommes cette fois. »«
Bien sûr, monsieur le vicomte, » demanda madame de Béarn.
« Nous y sommes, » répéta Jean. Les oreilles s'ouvrirent, les yeux se dilatèrent. Jean rapprocha son fauteuil des deux autres fauteuils.
« Madame, par conséquent, ignore comme les autres que vous allez être présentée et que vous avez trouvé une marraine. »
« Ah, sans doute, je l'ignorais si vous ne me l'eussiez pas dit.
Vous êtes censé ne pas nous avoir vus, donc vous ignorez tout.
Vous demandez audience au roi. »«
Mais madame la comtesse prétend que le roi me refusera. »«
Vous demandez audience au roi en lui offrant d'être la marraine de la comtesse.
Vous comprenez, vous ignorez qu'elle en a une.
Vous demandez donc audience au roi en vous offrant d'être la marraine de ma sœur.
De la part d'une femme de votre rang, la chose touche sa majesté vous reçoit, vous remercie, vous demande ce qu'elle peut faire pour vous être agréable, vous entamez l'affaire du procès et faites valoir vos déductions. Sa majesté comprend, recommande l'affaire et votre procès que vous croyez perdu se trouve gagné.
Madame du Barry fixait sur la comtesse des regards ardents. Celle-ci sentit probablement le piège.
« Oh, moi, chétive créature, dit-elle vivement, comment voulez-vous que sa majesté... »«
Il suffit, je crois, dans cette circonstance, d'avoir montré de la bonne volonté, dit Jean.
Oh, »« S'il ne s'agit que de bonne volonté, dit la comtesse, hésitant... »
L'idée n'est point mauvaise, reprit madame du Barry en souriant, mais peut-être que, même pour gagner son procès, madame la comtesse répugne à de pareilles supercheries.
Alors, de pareilles supercheries, reprit Jean,
par exemple, et qui les saura, je vous demande, ces supercheries.
Madame a raison, reprit la comtesse, espérant se tirer d'affaire par ce biais. Je préférerais lui rendre un service réel pour me concilier réellement son amitié. C'est en vérité on ne peut plus gracieux, dit Madame du Barry, avec une légère teinte d'ironie qui n'échappa point à Madame de Béarn. Eh bien, j'ai encore un moyen, dit Jean.
Un moyen?
Oui, de rendre ce service réel. Ah, ça, vicomte, dit Madame du Barry, vous devenez poète, prenez garde, monsieur de Beaumarchais n'a pas dans l'imagination plus de ressources que vous. La vieille comtesse attendait avec anxiété l'exposition de ce moyen. Raillerie à part, dit Jean, voyons, petite sœur, vous êtes bien intime avec Madame d'Allonie, n'est-ce pas?
Oh, si je le suis, vous savez bien.
Se formaliserait-elle de ne point vous présenter?
Dame, c'est possible.
Il est bien entendu que vous n'irez pas lui dire à brûle-pourpoint ce que le roi a dit, c'est-à-dire qu'elle était de bien petite noblesse pour une pareille charge, mais vous êtes femme d'esprit, vous lui direz autre chose.
Eh bien, demanda Jeanne,
eh bien, elle céderait à madame cette occasion de vous rendre service et de faire fortune. La vieille frissonna. Cette fois, l'attaque était directe, il n'y avait pas de réponse évasive possible. Cependant, elle en trouva une. « Je ne voudrais pas désobliger cette dame, dit-elle, et entre gens de qualité, on se doit des égards. » Madame du Barry fit un mouvement de dépit que son frère calma d'un signe. « Notez bien, madame, dit-il, que je ne vous propose rien. Vous avez un procès, cela arrive à tout le monde, vous désirez le gagner, c'est tout naturel. Il paraît perdu, cela vous désespère, je tombe au milieu de ces désespoirs, je me sens ému de sympathie pour vous, je prends intérêt à cette affaire qui ne me regarde pas, je cherche un moyen de la faire tourner à bien quand elle est déjà aux trois quarts tournée à mal. Oh, j'ai tort, n'en parlons plus. » Et Jean se leva.
« Oh, monsieur !» s'écria la vieille avec un serrement de cœur qui lui fit apercevoir les du Barry, jusqu'alors indifférents, ligués désormais eux-mêmes contre son procès.
« Oh, monsieur, tout au contraire, je reconnais, j'admire votre bienveillance. »
« Moi, vous comprenez, reprit Jean, avec une indifférence parfaitement jouée, que ma sœur soit présentée par Madame d'Allonie, par Madame de Polastron ou par Madame de Béarn, peu m'importe. »
« Mais sans doute, monsieur. Seulement, eh bien, je l'avoue, j'étais furieux que les bienfaits du roi tombassent sur quelque mauvais cœur qui, gagné par un intérêt sordide, aurait capitulé devant notre pouvoir, comprenant l'impossibilité de l'ébranler.
« Oh, c'est ce qui arriverait probablement, » dit Madame du Barry.
« Tandis, continua Jean, que madame, qu'on n'a pas sollicité, que nous connaissons à peine, et qui s'offre de bonne grâce, enfin, me paraît digne en tout point de profiter des avantages de la position. »
La plaideuse allait peut-être réclamer contre cette bonne volonté dont lui faisait honneur le vicomte, mais Madame du Barry ne lui en laissa pas le temps.
« Ah, le fait est, dit-elle, qu'un pareil procédé enchanterait le roi et que le roi n'aurait rien à refuser à la personne qui l'aurait eue. »
« Comment, le roi n'aurait rien à refuser, dites-vous »
« C'est-à-dire qu'il irait au-devant des désirs de cette personne, c'est-à-dire que, de vos propres oreilles, vous l'entendriez dire au vice-chancelier « Je veux que l'on soit agréable à Madame de Béarn, entendez-vous, monsieur de Maupillou ?»«
Mais il paraît que Madame la Comtesse voit des difficultés à ce que cela soit ainsi. Bon, c'est bien. Seulement, ajouta le vicomte en s'inclinant, j'espère que Madame me saura gré de mon bon vouloir.
Je suis pénétré de reconnaissance, monsieur, s'écria la vieille.
Oh, bien gratuitement, dit le galant vicomte.
Mais, reprit la Comtesse,
Madame?
Mais Madame d'Allonie ne cédera point son droit, dit la plaideuse.
Alors nous en revenons à ce que nous avons dit d'abord. Madame ne s'en sera pas moins offerte et sa majesté n'en sera pas moins reconnaissante.
Mais en supposant que Madame d'Allonie accepta, dit la comtesse, on ne peut faire perdre à cette dame les avantages.
Oh, la bonté du roi pour moi est inépuisable, madame, dit la favorite.
« Oh !» s'écria du Barry, « quelle tuile sur la tête de ces salus que je ne puis pas souffrir !»«
Si j'offrais mes services à madame, » reprit la vieille plaideuse, se décidant de plus en plus, entraînée qu'elle était à la fois par son intérêt et par la comédie que l'on jouait avec elle, « je ne considérerais pas le gain de mon procès, car enfin, ce procès que tout le monde regarde comme perdu aujourd'hui sera difficilement gagné demain. »
Oh, si le roi le voulait pourtant, répondit le vicomte, se hâtant de combattre cette hésitation nouvelle.
Eh bien, madame a raison, vicomte, dit la favorite, et je suis de son avis, moi.
Vous dites, fit le vicomte, ouvrant des yeux énormes,
je dis qu'il serait honorable pour une femme du nom de madame que le procès marchât comme il doit marcher.
Cependant, nul ne peut entraver la volonté du roi, ni l'arrêter dans sa munificence.
Et si le roi, ne voulant pas changer le cours de la justice, offrait à madame un pas, surtout dans la situation où il est avec ses parlements,
si le roi, ne voulant pas changer le cours de la justice, offrait à madame un dédommagement
honorable, se hâta de dire le vicomte.
Oh oui, petite sœur, je suis de votre avis.
Hélas, fit péniblement la plaideuse, comment dédommager de la perte d'un procès qui enlève 200 000 livres?
Mais d'abord, dit madame du Barry, par un don royal de 100 000 livres, par exemple.
Les deux associés regardaient avidement leur victime.
J'ai un fils, dit-elle.
Oh, tant mieux, c'est un serviteur de plus pour l'État, un nouveau dévouement acquis au roi.
On ferait donc quelque chose pour mon fils, madame, vous le croyez?
Oh, j'en réponds, moi, dit Jean, et le moins qu'il puisse espérer, c'est une lieutenance dans les gendarmes.
« Avez-vous encore d'autres parents ?» demanda la favorite.
« Un neveu. »«
Eh bien, l'on inventerait quelque chose pour le neveu. »«
Et nous nous chargerions de cela, vicomte, vous qui venez de nous prouver que vous étiez plein d'inventions, » dit en riant la favorite.
« Voyons, si sa majesté faisait pour vous toutes ces choses, madame, » dit le vicomte, qui, suivant le précepte d'Horace, poussait au dévouement, « trouveriez-vous le roi raisonnable ?»
Oh, je le trouverais généreux au-delà de toute expression, et j'offrirais toutes mes actions de grâce à madame, convaincue que c'est à elle que je dois tant de générosité.
Ainsi donc, madame, demanda la favorite, vous voulez bien prendre au sérieux notre conversation?
Oh oui, madame, au plus grand sérieux, dit la vieille comtesse, toute pâle de l'engagement qu'elle prenait.
Et vous permettez que je parle de vous à sa majesté?
Oh, faites-moi cet honneur, répondit la plaideuse avec un soupir.
Madame, la chose aura lieu, et pas plus tard que ce soir même, dit la favorite en levant le siège.
Et maintenant, madame, j'ai conquis, je l'espère, votre amitié.
La vôtre m'est si précieuse, répondit la vieille dame en commençant ses révérences, qu'en vérité, je crois être sous l'empire d'un songe.
Voyons, récapitulons, dit Jean, qui voulait donner à l'esprit de la comtesse toute la fixité dont l'esprit a besoin pour mener à fin les choses matérielles.
Voyons, 100 000 livres d'abord comme dédommagement des frais du procès, des voyages, d'honoraires d'avocat, etc.
Oui, monsieur, une lieutenance pour le jeune comte.
Oh, ce serait pour lui une ouverture de carrière magnifique.
Et quelque chose pour un neveu, c'est cela?
Quelque chose.
Ah, on trouvera ce quelque chose, je l'ai déjà dit, cela me regarde.
Et quand aurai-je l'honneur de vous revoir, madame la comtesse? Demanda la vieille plaideuse.
Demain matin, mon carrosse sera à votre porte, madame, pour vous mener à Lucienne où sera le roi. Demain, à 10 heures, j'aurai rempli ma promesse, sa majesté sera prévenue et vous n'attendrez point.
Permettez que je vous accompagne, dit Jean, offrant son bras à la comtesse.
Oh, je ne le souffrirai point, monsieur, dit la vieille dame.
Demeurez, je vous prie.
Jean insista. Allez, jusqu'au haut de l'escalier, du moins.
Oh, puisque vous le voulez, absolument.
Et elle prit le bras du vicomte.
Zamore, appela la comtesse.
Zamore accourut.
Qu'on éclaire madame jusqu'au perron et qu'on fasse avancer la voiture de mon frère.
Zamore partit comme un trait.
« En vérité, vous me comblez, » dit madame de Béarn.
Et les deux femmes échangèrent une dernière révérence.
Arrivé au haut de l'escalier, le vicomte Jean quitta le bras de madame de Béarn et revint vers sa sœur, tandis que la plaideuse descendait majestueusement le grand escalier. Zamore marchait devant, derrière Zamore suivaient deux valets de pied portant des flambeaux, puis venait madame de Béarn, dont un troisième laquais portait la queue un peu courte.
Le frère et la sœur regardaient par une fenêtre afin de suivre jusqu'à sa voiture cette précieuse marraine cherchée avec tant de soin et trouvée avec tant de difficultés.
Au moment où madame de Béarn arrivait au bas du perron, une chaise entrait dans la cour et une jeune femme s'élançait par la portière. Ah, maîtresse Chon, s'écria Zamor en ouvrant démesurément ses grosses lèvres. Bonsoir, maîtresse Chon.
Madame de Béarn demeura un pied en l'air. Elle venait, dans la nouvelle intrigante, de reconnaître sa visiteuse, la fausse fille de maître Flageot. Du Barry avait précipitamment ouvert la fenêtre, et de cette fenêtre faisait des signes effrayants à sa sœur, qui ne le voyait pas.
« Ce petit sot de Gilbert est-il ici ?» demanda Chon au laquais sans voir la comtesse.
« Non, madame, répondit l'un d'eux, on ne l'a point vu. »
Ce fut alors qu'en levant les yeux, elle aperçut les signaux de Jean, et suivit la direction de sa main, qui était invinciblement étendue vers madame de Béarn. Chon la reconnut, jeta un cri, baissa sa coiffe et s'engouffra dans le vestibule. La vieille, sans paraître avoir rien remarqué, monta dans le carrosse et donna son adresse au cocher.